Bonjour à tous. Bienvenue sur Séoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Pour des raisons expérimentales, cet épisode numéro 12 vous est proposé en deux versions. Une version complète d'environ 1h20 et une version courte d'environ 50 minutes. Vous écoutez actuellement la version courte. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ou sur Facebook la version que vous avez choisie, ainsi que votre opinion sur le format général du podcast. Merci. Bonjour Nicolas.
Salut Bart.
Bienvenue sur Séoul Connect.
Merci pour ton invitation et puis félicitations pour ton podcast. J'ai écouté quelques-uns des podcasts, des épisodes précédents. C'est pas mal du tout. C'est toujours super intéressant pour moi d'entendre les différentes expériences et surtout la question qu'est-ce que vous faites en Corée, comment vous êtes arrivé là. Donc, c'est toujours fascinant.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Merci aussi donc de participer aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que pour commencer, tu te présentes en quelques phrases.
Oui. Donc, je m'appelle Nicolas Jacquet. Je suis jusqu'à la fin du mois de mars le responsable marketing pour une des divisions du conglomérat Hyundai qui s'appelle Hyundai BSNC. Je travaille en fait au développement de marques telles que HDAC, qui veut dire Hyundai Digital Asset Corp, Hyundai Pay et KC. Donc HDAC, c'est un IoT / blockchain service pour le développement de ce qu'on appelle Smart Home, Smart Factory, ce genre de technologie. Hyundai Pay, donc Digital Payment, et KC, ce qu'on appelle Cold Storage. Okay. Voilà, je suis en fait revenu en Corée depuis fin 2018. Et au total, j'ai passé 8 ans. Ça fera, ouais, je suis dans ma 8e année en Corée.
D'accord, très bien. Et ce job-là en particulier, comment est-ce que tu l'as trouvé?
Alors, c'est une longue histoire. En fait, j'étais en Allemagne, donc je suis parti de Corée en 2015. J'étais chez Samsung Electronics à l'époque. J'ai une offre chez Adidas, qui est une entreprise pour laquelle je rêvais de travailler, au siège en Allemagne. En partant de Samsung, je travaillais sur un projet que tu connais peut-être, ou les gens qui habitent en Corée connaissent peut-être, qui s'appelle Samsung Pay, qui est un service de digital payment à partir de ton mobile, de ton téléphone portable. Et le projet étant assez innovateur, à l'époque, à part Apple Pay, PayPal dans une moindre mesure, tout dépend comment tu considères la chose, et Samsung Pay, il n'y avait pas beaucoup de services qui offraient ce genre de prestations. Donc, c'était une industrie assez fermée. On se connaissait un peu tous dans le milieu. Et quand j'étais chez Adidas, donc, on a eu besoin de revenir en Corée pour des raisons familiales. Et j'ai commencé à contacter à travers mon réseau des gens avec qui j'avais bossé sur Samsung Pay. Et j'avais entendu parler d'un projet qu'une branche de Hyundai, donc Hyundai BSNC, développait qui s'appelle Hyundai Pay. Et on m'a mis en contact. Hyundai Pay cherchait quelqu'un qui aiderait la marque à se développer un peu à l'international, un expert marketing. Et de fil en aiguille, puis d'entretien en entretien, on m'a fait une offre pour revenir en Corée. Le contrat était un contrat d'expat. Hein. Donc, en final, j'ai signé le contrat en Europe, mais directement, je suis venu en Corée pour travailler. Et au final, j'ai travaillé sur Hyundai Pay un petit peu, mais proportionnellement Je veux dire, 80% de mon temps est sur HDAC, 10% sur Yandepay et 10% sur KC. Comme dans la plupart des cas dans ce genre d'entreprise, le contrat que tu signes au départ, enfin les objectifs et les tâches que tu as au départ évoluent beaucoup. Donc, tu te retrouves à la fin de ton contrat à faire des choses qui sont très différentes du contrat pour lequel tu as signé.
D'accord. Tu es sur quel visa en ce moment?
Alors, je suis en F6, mais que ce soit au début de mon contrat avec Hyundai BSNC et Samsung Electronics, j'étais en E7. Donc, ma femme étant coréenne, on s'est marié en 2014 quand j'étais encore chez Samsung. Je n'ai pas fait à l'époque la démarche de passer de E7 à un visa conjoint.
Oui.
J'aurais dû le faire, mais bon, je l'ai fait après coup chez Hyundai. Donc, au bout d'un an, sous E7, je suis passé au F6 très, très simplement au final. À partir du moment où tu es marié, tu es capable de justifier un salaire. En plus, avoir un enfant, ouais, j'ai trouvé que l'État faisait en sorte de faciliter le process.
D'accord. Et donc, dans cette division du Hyundai, il y a beaucoup d'étrangers ou tu étais le seul?
Absolument pas. C'est très, c'est
Oui.
très, très coréen. C'est d'ailleurs une chose qui m'a pas déçu, mais j'ai trouvé ça un peu dommage, dans le sens où pendant 5 ans chez Samsung, j'avais essayé de raffiner ma connaissance de la culture coréenne, ma connaissance de la langue. Et je suis parti de Samsung en me disant, c'est dommage, ça fait 5 ans que je suis là, je commence à avoir un niveau de compréhension, on va dire, intermédiaire. C'est-à-dire que je vais dans des meetings et j'arrive enfin à comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas complètement à l'aveugle. Et c'est le moment de partir. Quand j'ai eu le contrat chez Hyundai, je me suis dit, bah, super, je vais pouvoir enfin bénéficier de ce que j'ai appris. Mais Hyundai est encore beaucoup plus coréen que Samsung ne pouvait l'être. Donc en fait,
D'accord.
j'avais l'impression de me retrouver ma première année chez Samsung. Donc, aucun étranger autour de moi, si ce n'est une personne dans mon équipe qui était de Taïwan et une personne, une Kyopo, donc américaine, coréenne, dans la partie RH, mais le reste, c'était que des Coréens.
D'accord. Toi, tu as une équipe de combien de personnes?
Sept personnes.
Donc tous coréens enfin dans ton équipe, à part un taïwanais?
Non, alors maintenant, le Taïwanais, malheureusement, est parti. Vers d'autres aventures, mais maintenant ils sont tous coréens. Oui.
D'accord, donc vous parlez en coréen ou en anglais quand même?
Tout dépend de leur niveau d'anglais.
Oui.
Ceux qui parlent bien anglais, on fait tout en anglais. Les autres me parlent en coréen. Je réponds en anglais pour des questions de productivité de ma part et de, on va dire, confiance. C'est-à-dire que si je m'exprime en coréen, l'impact du message est pas assez fort pour que j'arrive à convaincre quelqu'un. Donc il faut que je fasse dans un langage où je suis plus à l'aise et où le message est plus convaincant.
Tu n'as pas assez d'autorité, tu veux dire, en coréen par rapport à ce que tu peux avoir en anglais ou en français, c'est ça?
Exactement. Exactement. Il y a plein de facteurs. Si tu n'es pas forcément à l'aise avec le vocabulaire ou avec la grammaire, forcément, tu hésites sur les mots que tu vas choisir. Moi, en plus, j'ai énormément, enfin, quasiment, appris le coréen qu'avec des femmes. Donc, j'ai un côté très, très féminin quand je parle coréen. Je ne sais pas si tu connais le terme aegyo.
Non.
C'est le. Comment tu traduiras ça? C'est ce côté un petit peu petite fille que peuvent se donner certaines filles. Tu vois beaucoup ça dans la K-pop. Ou
Un peu
ou,
cute, quoi. Un
ou,
peu
voilà,
cute,
cute. Ouais.
ouais.
Ouais, ça, cute, ça pourrait être une définition. Donc, apparemment, je fais beaucoup de haegyo quand je parle coréen. Donc, quand t'es responsable d'une équipe, ça passe pas. Le message, il peut pas passer comme ça.
Oui, évidemment, d'accord. Donc, eux te parlent coréen, toi, tu parles en anglais, hein, c'est ça? Et tu reportes à un coréen aussi?
Oui, tout à fait. Donc on a le le TPO, donc qui est littéralement responsable de la branche et qui lui reporte au sergent, au chairman, qui est
D'accord.
là on rentre dans la famille Yandé, donc la famille Chang.
D'accord. Mais je veux dire, tu les reportes en anglais ou tu les reportes en coréen à lui?
En anglais
En
aussi.
anglais aussi, oui.
Pour
Ouais.
les mêmes raisons, raisons de légitimité.
D'accord. Donc vous, votre département fait du marketing international, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon équipe s'occupe de toute la partie donc marketing, donc que ce soit pour HTAC, Yandepay et KC. Donc l'idée, c'est étant un produit ou un service qui se développe initialement en Corée, on a exploré différents marchés, la Chine, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Canada, et essayer de développer un storytelling, une image de marque qui permet à une nouvelle clientèle, une nouvelle audience de comprendre ce qu'on fait et d'être intéressé par ce type de service.
D'accord, vous n'avez pas lancé encore, vous en êtes à la phase de préliminaire, c'est ça?
Alors, pour ce qui est pour ce qui est de HTAC, la plateforme a été lancée très récemment. Mais jusque-là, oui, effectivement, on était dans la construction d'une image de marque avant que le service en lui-même soit disponible. Pour Yandepay et KC, on reste principalement, quasiment exclusivement en Corée pour le moment. Même si le service est déjà disponible, on reste en termes de communication sur la Corée et à l'étranger, c'est juste de l'image de marque avant que le service soit lancé là-bas.
Oui, parce que Samsung Pay, ils peuvent le lancer parce qu'ils ont des téléphones qui vont avec, donc c'est préinstallé. Mais sans les téléphones, ça doit être beaucoup plus difficile d'imposer, de s'imposer avec des Apple Pay, des Google Pay, etc., non?
Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est le même genre de problématique que peuvent avoir, par exemple, une banque ou un retailer à lancer un service de paiement digital.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis, Samsung a le smartphone, donc l'application peut être disponible automatiquement, donc l'utilisateur va l'utiliser directement. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on va dire la stickiness. C'est à quel point l'application sur le téléphone reste et est utilisée fréquemment par l'utilisateur. Si toi, tu es amené à utiliser ton application de banque en ligne tous les jours, ça sera plus simple pour toi d'avoir un système de paiement qui sera avec ton application de banque en ligne. Ça se trouve, ton application Samsung Pay sur ton Samsung smartphone, elle restera même pas sur ton écran principal, tu l'activeras jamais parce que tu es plus à l'aise avec ton application de banque en ligne. Ou si tu as une application de paiement sur, on va dire, en France, Carrefour, qui t'offre des services adjacents plus intéressants, bah tu utiliseras celle-là. Donc, ce n'est pas
D'accord.
nécessairement le fait d'avoir une présence automatique sur le hardware, sur le smartphone, qui va faire la raison du succès. C'est la communication qui a été faite autour, la perception des bénéfices de
Ouais.
l'incentive du service.
D'accord. Ça aide à la distribution, mais pas forcément, comme tu dis, à la stickiness et le fait que l'app va être
Exactement.
utilisée et rester. D'accord. Mais justement, je rebondis là sur ton département. Si vous êtes du marketing international, alors tout le monde devrait parler anglais couramment.
C'est très logique comme question, mais c'est pas forcément la réalité dans des entreprises coréennes. Je peux te donner plein d'exemples
Ouais.
de situations qui manquent totalement de logique, qui n'ont aucun sens, que ce soit les membres de tes équipes ne sont pas forcément, ont pas forcément un cursus qui correspondrait à ce qu'ils fassent du marketing maintenant, mais la décision a été faite que quelqu'un qui est diplômé en biologie, bah, de toute façon, va bosser dans le marketing parce que la direction a décidé comme ça et tu dois faire avec.
D'accord, donc ce n'est pas forcément une exigence que l'anglais soit à top niveau pour être dans ce département.
Non, non, pas nécessairement.
Ok, très bien. Et donc, tu me disais avant de démarrer le podcast, oui, qu'il y a du nouveau au niveau de ta vie professionnelle?
Oui. Donc, bah, je ne suis plus officieusement, officiellement en charge du marketing pour Yandex SNC. Je retourne chez Adidas à partir du 1er avril. Donc, en fonction de la date de diffusion du podcast, je serai déjà là-bas en avril.
D'accord, 1er avril, c'est pas un poisson, c'est pas une blague, c'est du sérieux
Non.
chez Adidas.
C'est du sérieux. Bah, je retourne. C'est en fait dans la continuité de ce que je voulais faire en rejoignant Adidas en 2015. L'idée pour moi, c'était de rejoindre une entreprise, une marque pour laquelle j'ai une certaine passion. Jouant au foot, au basket depuis très jeune, ayant vu l'évolution, que ce soit en termes de streetwear ou de n'importe quelle marque, c'est-à-dire le foot, le basket, le outdoor, le golf, etc. J'ai toujours été passionné. Et je voulais, en fait, quand j'avais annoncé à ma femme qu'on allait déménager en Bavière, à
Oui.
Nuremberg, exactement à Herzogenaurach, en Bavière, en Franconia, elle a pleuré. Elle a pleuré pour te dire à quel point elle était heureuse. Ce qui contrastait avec ma joie de rejoindre Adidas.
Alors elle a
Donc, je
pleuré, elle a pleuré à cause de la destination, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer le nom de la ville, ou parce qu'elle ne le trouvait pas sur une carte.
Un peu de tout ça, un peu de tout ça, le fait de devoir quitter ses parents, sa famille qui est ici, et de passer à autre chose, hein, aller un peu vers l'inconnu. Ouais, forcément, c'était assez émouvant pour elle. Moi, je lui avais dit, on essaye ça quelques années, si ça se passe pas bien, on rentre. Et elle n'a jamais vraiment adhéré à l'Allemagne. Alors que moi, ça se passait très bien professionnellement. Donc, j'avais essayé de me faire transférer du siège social, du siège monde, vers le siège à Séoul. Mais il y a une modification de la stratégie d'Adidas à l'époque, qui fait, particulièrement en 2017, qui fait que la plupart des postes qui étaient intéressants pour moi ont été bougés à Shanghai. Et Shanghai est
D'accord.
devenu en fait le hub de l'Asie. Donc, je me suis retrouvé dans une situation, si je voulais revenir en Corée avec Adidas, fallait que je fasse sales, par exemple. Et sales, nécessairement en Corée, demande qu'on soit soit coréen, soit complètement fluent en coréen.
D'accord.
C'est un type de tâche qui transige pas sur la capacité de communication. Donc, c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai dû chercher une autre option pour revenir en Corée. Donc, c'est comme ça que je disais, je me suis rabattu vers mes connexions chez Samsung Pay qui m'ont amené vers Yandex Pay.
D'accord. Oui, donc tu es arrivé à finalement à gérer le meilleur des mondes, à savoir que toi tu travailles chez Adidas, mais vous êtes en Corée pour ta femme, donc tout le monde est content, c'est ça?
Voilà, j'espère que dans cette situation, tout le monde sera satisfait.
Eh bien, c'est
Mais
super, oui.
effectivement, moi, je suis très heureux comme ça. Ma femme, sont très heureux. Et surtout, ma belle famille est extatique à savoir, dans l'idée que l'on reste en Corée. Donc, voilà.
Oui. Eh bien, félicitations déjà. Donc là, on est
Merci.
le 25 mars. Donc tu commences bientôt. Tu dis a priori 1er avril, enfin début avril. Ils sont où, Adidas, à Séoul?
Gangnam, en fait, ils sont très bizarrement. Si tu vois où est situé les bureaux Samsung à Gangnam Station,
Non, mais tu sais, moi je débarque, moi. Hein.
d'accord. Donc, tu as la station Gangnam. Si tu regardes vers le sud, tu as une tour immense,
Oui.
ce sont les bureaux de Samsung à droite.
OK.
Et juste derrière, tu as Samsung Insurance. Et Adidas sont dans les locaux d'Adidas Corée sont dans ces bureaux de Samsung Insurance.
D'accord, il y a beaucoup de monde?
Oui et non, ça dépend comparativement à quoi. Comparativement à Samsung, non.
Oui.
Une structure comme ça, c'est plusieurs centaines de personnes.
D'accord. Donc toi, tu vas faire du marketing international là aussi?
Oui, en charge de toute la partie e-commerce.
Partie e-commerce sur des pays en particulier?
Non, sur la Corée.
Sur la
En
Corée, ouais,
fait,
d'accord, celui-là.
c'était un projet sur lequel je bossais déjà chez Adidas au siège. Je reprends le projet que j'avais commencé avec toute la partie digitale d'Adidas en 2015, entre 2015 et 2018. Donc on reprend ça spécifiquement pour la Corée.
D'accord, donc les ventes en direct de Adidas, c'est ça, ou c'est
Ouais.
via des retailers?
Non, e-com, c'est direct. C'est direct. Ce qu'on a appelé marketplace, ça, c'est pour le retail, effectivement, que ce soit dans les boutiques premium Adidas ou via les franchises ou les détaillants. Ça, c'est pas de mon ressort.
D'accord, ouais. Et là, tu as une équipe aussi?
Oui, il y aura une équipe, une petite dizaine de personnes.
Donc là aussi, j'imagine principalement coréen.
Principalement coréen, mais de manière générale, les bureaux sont nettement plus diversifiés. Le managing director est américain. Au-dessus de moi, entre moi et le managing director, c'est hongkongais. Mon pendant pour la partie retail est anglais, si je
Ah oui,
ne
d'accord.
me trompe pas, ou australien. Voilà. En fait, bah, Séoul est ce qu'on appelle une des villes clés dans le développement d'Adidas, comme peut l'être New York, comme peut l'être Londres, Paris ou Shanghai. Séoul est une des villes clés.
D'accord, très bien. Donc, nouvelle expérience qui va démarrer. Si justement, en parlant de ton expérience et ton parcours, on remonte un petit peu dans le temps, déjà, tu viens de quelle région?
Région parisienne jusqu'à 2008 quand je suis enfin, reparti. J'avais un intermède aux États-Unis au début des années 2000 et je suis reparti aux États-Unis en 2008 pour reprendre mes études et ensuite depuis ce moment-là, je suis pas revenu en France.
D'accord, donc tu pars aux États-Unis faire un MBA, c'est ça?
Ouais, tout à fait. 2008, je repars aux États-Unis pour faire mon MBA. Je quitte mon entreprise dans le conseil donc pour laquelle j'avais travaillé pendant près de 6 ans. Je pars faire mon MBA, me spécialiser marketing stratégie, très précisément, et aussi acquérir une certaine connaissance ou une expérience en termes de leadership qui m'ont permis au final d'avoir des propositions un peu plus intéressantes professionnellement.
Ouais, tu étais où?
J'étais à Atlanta, à Emory University.
D'accord, du côté
Euh, très,
d'Atlanta,
très
ouais.
belle, très belle, très belle région, la Géorgie. Très beau climat et très, très belle expérience pendant 2 ans. Très intense. Ça marque. Et puis professionnellement, c'est quelque chose que je ne regrette pas.
Ouais, donc là, on est en 2008-2010, c'est ça?
Voilà, entre 2008 et 2010, tout à fait.
D'accord.
D'ailleurs, en février 2010, Samsung vient sur le campus d'Emory, présente l'entreprise et présente son programme de recrutement. Donc, on a la possibilité de postuler directement et c'est comme ça que j'ai été recruté quasiment 5 mois avant l'obtention du diplôme.
Donc ça, c'est Samsung Corée qui vient sur votre campus MBA pour recruter des jeunes diplômés
Tout à
pour
fait.
aller travailler en Corée.
Tout à fait, tout à fait. Mais
Parce que
avec un contrat, enfin, moi j'avais un contrat US là-bas, donc j'étais payé en dollars.
D'accord. Et donc tu bouges sur la Corée à la fin du MBA. Et quel est ton job alors chez Samsung? au
Alors,
départ?
j'étais marketing manager pour le développement de services digitaux. Donc, je faisais partie d'une division qui s'appelait, je crois qu'elle n'existe plus, qui s'appelait MSC, Media Solution Center, donc qui était en charge de développer des services digitaux, que ce soit pour la partie mobile, pour la partie Digital TV ou Digital Home Appliance, par exemple. Donc, ça pouvait être des services. J'ai travaillé sur un service Media Hub qui est l'équivalent de Apple TV. J'ai travaillé sur Samsung Wallet, Samsung Pay, comme je le mentionnais, Samsung AdUp, qui est en fait une plateforme de publicité qui aide à vendre l'inventaire de placements publicitaires de Samsung sur Samsung Connected TV ou sur les smartphones, sur les applications Samsung. Donc, il y a tout un tas de possibilités de développement, que ce soit personnel ou professionnel.
D'accord. Donc là-bas, tu vas rencontrer Thierry Nanette, qui a été invité d'un précédent
Tout à fait.
podcast. OK.
Tout à
Et
fait.
donc toi, ton ressenti sur cette expérience chez Samsung?
Alors, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, on a un petit peu parlé. Ce qui est extraordinaire dans cette expérience, c'est que tu peux être exposé à n'importe quel type d'innovation et de développement technologique. Et si tu es un peu curieux, si tu es intéressé par, je ne sais pas, l'artificial intelligence, augmented reality, blockchain, par exemple, tu trouveras de toute façon une équipe ou un projet travaillant là-dessus. Donc, tu as mille et une possibilités de développement professionnel. Après, il faut effectivement savoir les utiliser, ces opportunités, et faire en sorte que tu apprennes le plus possible, parce que tu peux très bien te retrouver dans un poste où c'est systématiquement la même répétition de tâches. Et au bout de quelques mois, tu te retrouves à stagner en termes d'apprentissage.
D'accord. Mais justement, est-ce qu'ils ont des attentes particulières? Parce qu'ils font l'effort d'aller venir chercher des étrangers à Atlanta, de les faire venir en Corée, de les payer sans doute beaucoup plus cher que des locaux, en tout cas un poste équivalent. Est-ce qu'ils ont des attentes particulières ou c'est quoi la finalité de ce programme?
Alors, le but tel qu'il a été présenté au départ, quand j'ai rejoint Samsung, c'était de vraiment transformer l'entreprise en entreprise globale. D'ailleurs, faire venir des étrangers qui apportent une vision des méthodes qui soit un peu moins coréenne. Que ce soit en termes de hiérarchie, de reporting, de créativité, de vision, de solution des problèmes, avoir quelque chose qui soit un peu différent. C'était l'objectif.
D'accord.
Après, en termes d'exécution, c'est pas simple tous les jours, parce qu'effectivement, tu te retrouves à être confronté à une culture très, très forte,
Ouais.
à une identité très forte et qui se change pas en un claquement de doigts. Samsung, jusqu'à preuve du contraire, est encore dans cette phase où ils essayent de s'arranger un peu, de s'assouplir, que ce soit sur les horaires de travail, sur la flexibilité, sur la productivité, faire en sorte que les employés restent pas de longues heures au bureau, parce que le boss est toujours là et qu'il faut faire du nunchi, donc être
Oui, des
visible.
heures, faire des heures.
Et si les employés ont besoin de travailler 12 heures par jour une certaine période, et donc ensuite on va être plus flexible pour qu'ils travaillent moins sur une autre période, pour avoir au final une dose hebdomadaire qui soit un peu plus dans les normes internationales.
D'accord. Tu restes 5 ans, tu dis, chez Samsung. Qu'est-ce
Ouais.
qui te fait quitter la boîte?
Le niveau de stress, le rythme de travail. Quand on a lancé Samsung Wallet, Samsung Pay, C'était des horaires très intenses. J'étais pas loin du 8h minuit tous les jours avec ce qu'ils appelaient la semaine en Corée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, vendredi. Donc
D'accord.
le week-end aussi. Oui, il y a juste un moment où je crois que c'est Thierry qui disait ça dans son podcast. En termes de performance sur ton poste, tu ne peux pas être à 100% 16 heures par jour
Oui.
pendant trop longtemps. Ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment un moment, prendre le taxi le soir, passer minuit, rentrer, se relever à 6 heures. Ouais, tu fais ça un moment, mais tu sens que à partir d'une certaine période, tu es plus dans le. À aller au-delà de tes limites, c'est juste plus possible. Donc, il me fallait un break. En plus, je venais de me marier, je voulais profiter un petit peu, passer du temps avec ma femme. Donc, j'avais besoin d'un break. Puis, j'ai eu cette opportunité chez Adidas. Donc, j'ai sauté dessus.
C'est comment tu as trouvé ce job chez Adidas?
Le network, encore une fois, un collègue, Edgar, que je salue au passage, a fait lui son MBA avec quelqu'un qui travaille chez Adidas. Je lui avais parlé de mon envie de passer à autre chose. Il m'a dit, tiens, je connais cette personne, j'ai entendu dire qu'elle recherchait quelqu'un dans son équipe, je te mets en contact. Et ça s'est fait comme ça, recommandations, entretiens. Tous les rounds et voilà.
T'as tout fait à distance alors parce que
Ouais.
tu
Ah
c'est
non, 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 pardon, excuse-moi. J'ai presque tout fait à distance. Le dernier round était sur place.
ouais parce qu'à un moment ils veulent te voir en vrai quoi et puis vraiment discuter physiquement. D'accord, donc le dernier round sur place et donc ça c'est le siège d'Adidas, tu dis il est en plein au milieu de la Bavière, c'est ça?
Tout à fait. Donc plutôt vers le sud de l'Allemagne. Très belle région en soi. Bucolique, mais très très différent de la Corée dans ce sens, et de Séoul. C'est comparativement à Séoul, c'est au milieu de nulle part, Herzogenaurach, et c'est très petit. Le campus doit faire 15 000 employés, donc le campus est plus grand. Et non, le pire, c'est que les sièges d'Adidas et de Puma sont tous les deux à Herzo.
Puma et Adidas, oui, d'accord. Mais c'est une petite ville, les gens habitent autour. Et donc tu dis c'est Nuremberg, la ville la plus proche.
Voilà, ça doit faire. C'est une ville de la taille de Bordeaux, je pense.
Et c'est à combien de kilomètres?
15-20 km.
Donc toi, tu habites à Nuremberg, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais.
D'accord. Donc là, toi, tu y vas d'abord tout seul, effectivement. Là, ça se passe bien, tu es embauché. Et c'est après que tu expliques à ta femme qu'on déménage de Séoul à Nuremberg, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Donc, vous partez en quelle année là?
Donc, on part en 2015. Donc on repart sur une période un mois et demi à l'hôtel, le temps de trouver un appartement, le temps que nos affaires arrivent par container jusqu'en Allemagne, ce qui prend à peu près 2 mois, entre 6 et 8 semaines. Ouais. Et voilà, après le travail a commencé déjà. Donc moi j'étais déjà dans la routine. Pour ma femme, c'était un peu différent, mais
Donc
ouais, moi je traîne.
ça parle anglais chez Adidas là-bas ou
Ah
allemand?
oui, c'est pour le coup c'est très international. Et si tu veux une comparaison avec Samsung et d'ailleurs Hyundai pour le coup, c'est que même si tu as des collègues, tu te retrouves dans un groupe de travail entièrement avec des Allemands, ils ont cette, je vais pas dire cette politesse. Mais si tu rentres dans une pièce, une salle de réunion, où ils étaient en train de parler allemand, automatiquement ils passent à l'anglais. Par pur,
Oui,
par le fait que tu rentres dans la pièce.
j'ai vu
Ça
ça, parce que
n'arrive
nous,
pas.
les Français, on ne fait pas du tout.
Et ça n'arrive pas en Corée. La conversation a commencé en coréen et continuera en coréen, que tu sois là ou pas.
Ouais, mais en France aussi, hein. En France, et
C'est
on a
vrai.
d'ailleurs cette réputation, nous les Français, dès qu'on rencontre un autre Français, on s'occupe plus de qui est autour de nous. On a tendance à vite parler en français aussi. Je sais que moi, je l'ai beaucoup entendu et je me suis même retrouvé des fois à le pratiquer. Et c'est vrai que les Allemands sont beaucoup plus de ce côté-là, beaucoup plus ouverts. Donc oui, donc là, c'est en anglais. Donc un poste de marketing, hein, tu disais.
Ouais, pour la partie digitale, encore une fois, Adidas développait ses services digitaux de e-commerce, donc l'application Adidas. D'autres services comme Adidas Confirmed, qui est pour la partie hype, c'est-à-dire les chaussures qui sont en édition limitée, qui se vendent 300 euros et qui se revendent sur le marché noir 2000, 3000 euros. La partie, on va dire, l'application customisation pour le football qui s'appelle Adidas Glitch. Voilà, toute une offre e-commerce. Qui devait être mise en avant, bon, développée forcément et mise en avant et qu'il fallait promouvoir pour différents marchés, que ce soit en Europe de l'Ouest, aux États-Unis ou en Asie.
D'accord, ouais. Et c'est vrai qu'à la fois professionnellement et personnellement, pour vous, c'est un grand changement d'environnement, quoi.
Professionnellement, alors pour ce qui est du travail en lui-même, pour moi, effectivement, je change d'industrie, mais le travail en lui-même est très très similaire à ce que je fais même maintenant. Je reste sur la partie digital innovation, donc comprendre les nouvelles technologies et comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'utilisation au quotidien des utilisateurs. Construire un storytelling, construire une histoire autour de la marque ou du produit qui soit facile à comprendre pour l'utilisateur. Donc, ça, en soi, ça ne change pas grand-chose. Culturellement, oui, ça change beaucoup de choses. Et la vie en Bavière est très différente de la vie à Séoul.
Donc toi, ça te plaît bien en fait, et tu serais bien si t'es là-bas.
Oui, en termes de projet, je m'éclatais franchement. J'étais sur des projets qui étaient super intéressants, super innovants, encore une fois. Et j'étais dans une culture qui était un peu plus flexible, un peu moins difficile à comprendre au quotidien.
D'accord. Mais pour ta femme, effectivement, Nuremberg, c'est peut-être pas la ville la plus internationale qu'on puisse rencontrer à l'étranger.
Oui, et pourtant, cette partie de l'Allemagne, donc comprend les sièges de Samsung, pardon, d'Adidas, de Puma et de Siemens. Donc, au final, il y a énormément d'étrangers qui vivent en Franconie ou autour de Nuremberg. Mais oui, ça reste la culture locale.
Oui, et puis la communauté coréenne doit être très très réduite, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Ouais,
Je veux dire,
s'il y
pour ta
a
femme, c'est vrai que c'est pas comme Paris, par exemple, où on pourrait trouver des restos, des quartiers, des associations, j'imagine, hein, je sais pas.
Oui, non, c'est vrai, tu as raison.
Donc là, on est en quoi? 2018, alors, quand tu reviens ici?
Tout à fait. Fin 2018. Et voilà, on repart dans l'autre sens. À nouveau, un mois et demi à l'hôtel. Le cargo, les meubles qui arrivent 6 à 8 semaines plus tard. Et on a emménagé cette fois-ci à Itaewon.
Donc maintenant à Itaewon avec le travail à Séoul et puis le nouveau travail à Séoul toujours. Donc là c'est parti pour durer.
Oui, tout à fait. Pour le coup, c'était effectivement un contrat de 3 ans. Donc, je m'étais dit, bon, Samsung, j'ai signé un contrat de 18 mois, je suis resté 5 ans, je signe 3 ans, je vais rester quoi, 15-20 ans. Mais ça s'est terminé un peu plus tôt pour des raisons, on va dire, de compatibilité légale qui font qu'on a terminé le contrat récemment.
Ils font toujours des contrats à durée déterminée ou est-ce que ça existe aussi des contrats indéterminés avec des entreprises coréennes?
Alors, pour un expat, si je ne me trompe pas, c'est uniquement des contrats à durée déterminée.
D'accord.
J'ai pas ma connaissance, je connais pas quelqu'un qui a un contrat d'expat indéfini. Si c'est un contrat à durée indéterminée, c'est un contrat local.
Ah oui, parce que tu n'es pas sur un contrat local.
Oui.
Et là non plus, chez Adidas, tu es toujours sur un contrat expat.
Non, là, je passe sur un contrat local pour le coup.
Et là, tu as une durée aussi?
Non, non, mais je suis sur place. Ça faisait pas de sens de créer un contrat d'expat
Oui.
alors que la personne est sur place.
Oui, non, ce n'était pas forcément dans leur intérêt. Donc là, c'est un contrat à durée indéterminée, là.
Oui, tout
D'accord. Oui. Donc là, ça y est, tu es là pour longtemps.
à
Très bien. C'est vrai que justement, tu as eu un parcours un peu haché, on va dire, avec la Corée, du fait de ce retour en Allemagne et du fait que finalement, tu aurais pu aussi ne pas revenir. Donc la question suivante que je pose en général, mais c'est plutôt aux gens qui restent en Corée, mais je te la pose quand même, c'est qu'est-ce qui te plaît en Corée? Qu'est-ce qui te fait rester? Qu'est-ce qui te manquerait si tu devais quitter la Corée? Ou qu'est-ce qui t'a manqué justement quand tu étais en Bavière?
Bon, après, alors qu'est-ce qui me manquerait? Alors, effectivement, c'est une question de connexion. Après 8 ans, en arrivant à 8 ans, j'ai un cercle d'amis
Ouais.
coréens ou étrangers d'ailleurs, qui effectivement me manquerait énormément. Pour le pays en lui-même, c'est la diversité culturelle. Enfin, par rapport à ma culture,
Excuse-moi,
la gentille.
la différence culturelle alors, plutôt que diversité.
Pardon, la différence. J'ai dit diversité, la différence
Oui,
culturelle. Oui, tout à fait.
d'accord. Différence culturelle, oui, bien sûr.
La différence culturelle. Effectivement, quand j'ai commencé chez Samsung, à un moment, j'ai l'impression, le terme est un peu fort, mais j'avais l'impression d'être en vacances, c'est-à-dire d'être en exploration dans une terre inconnue, à découvrir des choses qui étaient totalement à la fois hors du temps et hors des us et coutumes que je connaissais. Donc, je prenais les choses telles qu'elles venaient et ça me paraissait totalement extraordinaire, fascinant. Il y a ce côté-là qui restera de toute façon. La Corée va pas changer, va pas s'occidentaliser dans les 10 prochaines années, même les 20 prochaines années. Donc ça restera quelque chose pour un occidental toujours tellement différent. À côté de ça, les Coréens, je les trouve quand même très très attachants. Il y a une forme de sécurité en Corée. Je déjeunais avec un ami très récemment. Il avait laissé ses clés sur sa moto, avec le casque sur le guidon. On est parti déjeuner, on est revenu, la moto n'avait pas bougé. À Paris, la moto, elle faisait 5 minutes.
Oui, un niveau, effectivement, la sécurité, il n'y a pas d'agression, il y a moins de vols, il y a moins de.
Puis, bon, effectivement, ma femme étant très heureuse ici, sa famille étant très heureuse, si on partait, je sais que ça pourrait être un autre problème.
Voilà, surtout si c'est dans une petite ville au milieu de au milieu nulle part. Et à l'inverse, le truc qui te déteste, ou enfin les choses avec lesquelles tu as beaucoup de mal, qui te manquerait pas.
Alors, pas forcément dans l'ordre, hein, ça vient comme tel. La pollution.
Oui.
En plus, on a vécu quelques semaines qui étaient assez difficiles récemment. L'éducation à la coréenne. Donc, j'ai un petit garçon qui va avoir 4 ans, donc qui est en équivalent de la maternelle. Et je sais que le système éducatif coréen, qui est très bon, mais qui est très très compétitif, me poserait pas mal de problèmes. Alors l'alternative, ce serait de le mettre dans une école internationale, lui étant français et coréen, ce qui est tout à fait concevable. Après, il y a un coût, bon, en fonction de ce que l'entreprise prend en charge, c'est très possible. Mais là, ensuite, c'est une question de diversité sociale. Alors, je m'explique. Quand au lycée français, par exemple, au lycée Xavier, les enfants se retrouvent ou les jeunes se retrouvent entourés avec d'autres jeunes qui sont issus de niveaux socio-économiques très privilégiés. Donc, il y a une certaine déconnexion avec la réalité. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement envoyer les enfants dans une ZEP pour qu'ils se fassent les pieds, ils apprennent les codes de la rue, mais à l'inverse, on est dans l'extrême là. On est dans des niveaux où si les conversations des enfants, c'est on va aux Maldives ou en Polynésie française pour les vacances de Pâques, on est dans des conversations qui ne sont pas réalistes, qui sont pas dans le vrai. Donc ça.
Je pense que c'est la majorité des élèves dans ces établissements qui sont sur cette catégorie-là.
Oui, tout à
Ouais.
fait, tout à fait. C'est pas une critique en soi, mais je trouve ça dommageable dans le sens pour les enfants, il y a ce manque d'ouverture ou d'appréhension de certaines perspectives et de réalités qui n'existera pas.
Oui, tout à fait. Et écoute, merci. Pour finir, dernière question un peu traditionnelle. Pareil, si est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'arriver en Corée, parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir.
J'aurais aimé effectivement avoir une forme de onboarding sur le côté politique de la vie en entreprise ici. Alors, je parle spécifiquement pour les chaebol, ces gros conglomérats coréens. Mon expérience m'a montré que il faut être très préparé à tout et n'importe quoi en termes de politique. C'est-à-dire que ce soit pour postuler sur un projet qui arrive, donc être en compétition avec des Coréens, que ce soit sur les rumeurs, comment manager les rumeurs en entreprise vis-à-vis des évaluations, etc. Comment empêcher la diffusion de certaines informations personnelles, que ce soit rumeurs ou sur les contrats de travail. Ça peut être très intense. Ça peut être très intense et très très violent à la fin. J'ai plusieurs expériences qui font que donc c'est assez difficile. J'entendais Thierry et Léa dans les podcasts parler de la façon dont la compréhension de la langue coréenne facilite la vie. Je voudrais mettre un bémol là-dessus dans le sens où quand on arrive en Corée en tant qu'étranger, ne pas parler coréen, ça passe. Dans le sens où on est un peu à part, effectivement, parce que on n'est pas dans le premier cercle d'information, mais ils font avec. À partir du moment où on commence à comprendre ce qui se dit, on commence à entendre certaines rumeurs, et on commence à pouvoir parler et communiquer un petit peu, on dévie vers le côté exotique du côté concurrent direct. Et là, on n'est pas du tout, mais alors, même si on parle un petit peu coréen, on n'est pas du tout armé pour y faire face.
Donc ça peut se retourner contre nous de maîtriser la
Tout
langue,
à
en gros,
fait.
si
Tout
je...
à fait. Ou alors, faut la jouer stupide et comprendre ce qui se passe, mais prétendre qu'on a rien compris. Mais effectivement, on peut être en compétition directe parce que effectivement, on a entendu parler qu'un poste s'ouvrait, donc on va parler au hiring manager et il se trouve qu'un autre Coréen était sur ce poste également, qui lui l'aurait entendu de toute façon puisque en niveau communication, c'est plus naturel pour lui. Et il se trouve que voilà, il y a certaines informations qu'il a sur toi et qu'il est capable de communiquer que tu ne pourrais pas faire.
Ben justement, donc alors, si je suis jeune diplômé, j'arrive à Séoul, j'ai une offre chez Adidas et j'ai une offre chez un chaebol, n'importe quel. Qu'est-ce que tu me conseilles et pourquoi?
Oh, c'est franchement une question de savoir quel genre d'expérience tu veux acquérir. Moi, je conseillerais à tout le monde d'essayer de travailler dans un chaebol. Ça va tanner le cuir. On est obligé de se construire une forme de carapace. Non, c'est une expérience unique. Je ne conseillerais pas l'un vis-à-vis de l'autre sans avoir plus d'informations, mais je ne dirais pas écarter le Chaebol, que ce soit Samsung, Hyundai, SK, LG, quoi que ce soit, parce que la politique peut être violente, parce qu'on ne parle pas parfaitement le coréen. Non,
Tu le
c'est au cas
déconseillerais
par
pas,
cas.
ouais. D'accord. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de ce à quoi la personne est prête à ce que la personne est prête à accepter en fait.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Très bien. Pour terminer, est-ce que tu as une annonce, un projet, quelque chose que tu veux partager?
Bon, l'annonce, je l'ai un peu faite au début.
Oui.
Je change d'entreprise. Oh non, ma femme est enceinte, donc on attend un ou une deuxième, on ne sait pas. Pour fin
Félicitations.
septembre. Merci.
Félicitations, je t'avais déjà dit, mais je te le redis. Oui, c'est prévu pour quand?
Fin septembre. J'espère que ce ne sera pas le 21 septembre, ce qui est la date d'anniversaire de mon garçon.
Alors, et
Ouais.
toi, tu préférerais un garçon ou une fille?
Bon, allez, une fille pour
Pour
équilibrer.
équilibrer, hein?
Ouais.
Ouais, d'accord. Bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Merci encore une fois donc d'avoir participé à cet épisode. Merci pour nous avoir raconté vraiment en détail tout ton parcours.
Merci.
Et puis, eh ben, à très bientôt.
Merci beaucoup et en espérant qu'il y ait encore plein d'autres épisodes à venir.
Eh bien, on y travaille, ouais.
Merci à toi,
Merci,
Marc.
salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!